Bonsoir, comment allez-vous? Cette semaine, j'ai eu la chance d'aller écouter l'immense pianiste Elisabeth Léonskaya au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Cette dame pourrait être la grand-mère de la plupart d'entre vous. Elle a donné son premier concert dans les années 50, elle avait 11 ans. Cette semaine, elle était seule sur scène, face à un piano qui coûte le prix d'une maison ou d'un appartement à Paris. Avec dans le cœur et la mémoire une musique, celle de Schubert. Après que les derniers retardataires ont été installés et que le régisseur a donné le top départ, c'était parti. Une fois de plus, sous nos yeux et nos oreilles surtout, un miracle se produisait. Comment peut-on jouer avec une telle puissance et une telle douceur en même temps? Cette dame n'a pas 10 doigts comme vous et moi, il lui en pousse des invisibles pour les concerts. Comment peut-elle être lion et papillon à la fois? À quoi pense-t-elle quand elle joue? Est-elle là seulement? Oui, bien sûr. Et Schubert, d'où lui est venue cette musique? L'éternel mystère de l'inspiration. L'éternel mystère de la connexion entre deux êtres qui ne se sont jamais vus. Et nous, Parisiens, grincheux, épuisés d'un soir de novembre pluvieux, étions debout, criant « bravo !» avions envie d'embrasser notre voisin, celui-là même qu'on aurait volontiers pilé dans le métro il y a une heure, celui-là même qui n'aurait sûrement pas cédé sa place à Elisabeth Léonskaya. Dans un genre différent, il se passe la même chose avec le film « Bohemian Rhapsody » qui retrace la vie de Freddie Mercury du groupe Queen. La musique nous fait aimer la vie. Allez, si je vous saoule, filez sur FIP ou France Musique où officie notre ami Frédéric Lodéon.
Bonjour, je m'appelle Charline Bauban, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir comment a-t-on fabriqué les pianos. Merci, au revoir.
Alors Charline, je vais t'expliquer le peu que je sais. Enfin, tu sais, dans l'histoire de la musique, on a quelques certitudes et on n'est pas absolument certain. On pense que le piano est né entre 1698 et 1700. À 2 ans près, c'est pas grave.
Oh, hein, c'est précis,
ça fait quand même longtemps. Hein. Alors, c'est un certain Cristofori qui était claveciniste avant. Alors, il faut savoir que le clavecin, c'est un instrument qui datait du Moyen-Âge et qui est un instrument qu'on peut trouver encore maintenant, qu'on peut entendre dans des concerts ou sur des disques, qui est à cordes pincées. C'est-à-dire que le clavecin a des grandes cordes tendues dans une boîte, tout simplement. Puis il y a des touches, un peu comme le piano maintenant. Et simplement, ce qui met en vibration la corde, eh bien, c'est un petit bout de plume d'oiseau, qu'on appelle un sautereau. Ça fait que quand on appuie sur la touche, cette plume d'oiseau se lève, elle égratigne en quelque sorte la corde, elle la pince, on peut dire, mais c'est pas pince que d'un côté. Hein, quand
la
même.
Frotte,
elle
comme la
frotte,
guitare.
Voilà, exactement. Et ça donne un petit son qui est vraiment pas très puissant et qui est très joli, que certains adorent, moi, dont moi par exemple, mais qui a un petit défaut, c'est qu'on peut pas changer de nuance, c'est-à-dire on peut pas jouer piano et forte, on peut pas, c'est toujours la même nuance.
Qu'est-ce que ça veut dire piano et forte?
Alors piano, ça veut dire doucement, comme ça, là je parle piano, et puis forte, là je parle, voilà, plus fort, doucement et fort. Alors, on a eu un peu de frustration, l'envie de trouver un instrument qui a plus de nuances. On se dit, ça suffit, c'est toujours pareil maintenant. Bon. Et certains créateurs, dont Cristofori, ont inventé un instrument à cordes frappées. Alors là, c'est pas pareil, ça donne une plus grande puissance. Et le premier piano forte, c'est-à-dire un instrument qui était capable de faire à la fois des nuances très très douces et puis des nuances très puissantes, était créé, comme je l'ai dit, autour de 1700. Mais il était encore approximatif, hein, pas très très bien gaulé, pas très bien mis en place.
C'est pas une fille.
Alors bon, il n'y avait pas les pédales, par exemple. Les pédales, c'est très utile pour maintenir le son ou pour le rendre plus doux, par exemple, sur le piano moderne.
Donc les premiers premiers... Dites-le très vite, les premiers pianos sans pédales.
Pianos, oui, sans pédales. Et puis après, on a inventé des genouillères, c'est-à-dire qu'il fallait imaginer le bazar. Il fallait lever les genoux pour actionner ce qui remplaçait, ce qui n'était pas encore la pédale. C'est-à-dire, pour pouvoir faire résonner les cordes, les laisser résonner librement, il fallait lever les genoux. C'est fatigant.
Ça veut dire c'est dur.
Hein. Baisser le pied, c'est toujours plus reposant que de le... Bon, alors bref, un jour, on a inventé les pédales quand même. Et c'est devenu véritablement un instrument formidable qui a été développé par des grands facteurs, comme on dit, ce sont pas ceux qui portent le courrier, mais des constructeurs. Vraiment, c'est le terme de fer. Le facteur Silbermann, un Allemand, par exemple, et puis des Anglais, Broadwood, entre autres, qui ont inventé des pianos de plus en plus puissants, de plus en plus faciles à jouer. Et alors, Mozart a connu tout. Il a connu le petit clavecin qu'il adorait, puis il a connu aussi le premier piano forte qui n'était pas encore parfait, puis il a demandé des perfectionnements, parce que c'est les compositeurs qui disent « je suis pas content ». Beethoven râlait contre ses pianos parce qu'il n'y avait pas assez de puissance dans le grave, par exemple. Il trouvait, je veux dire qu'il aimait jouer fort. Bon. Mais les facteurs, les constructeurs de pianos ont écouté les grands compositeurs et ils ont perfectionné ces instruments jusqu'au grand piano de concert de maintenant, qui est un monstre magnifique, qui est très lourd, 400 kilos facilement. C'est-à-dire que pour aller au concert, le pianiste peut pas arriver les mains dans les poches. Il faut d'abord qu'on ait engagé des déménageurs particuliers, des transporteurs de piano, qu'on ait loué un piano, et puis voilà, ça coûte un certain prix.
Et oui, on prend pas un déménageur stagiaire pour emporter un piano à 700 000 euros. Frédéric Lodéon est sur France Musique tous les jours de la semaine entre 16h et 18h. Ernst Zürcher, vous l'avez déjà entendu au Petit Bateau, il a un charme fou dans la voix, mais surtout il est savant. Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise, chargé de cours à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Avec tout ça, vous avez une petite idée de là où il vient.
Bonjour, voilà, je m'appelle Maëlle, j'ai 8 ans. Et j'aimerais savoir si les arbres s'arrêtent à un moment de pousser. Voilà, merci, au revoir.
Bonjour Maëlle, est-ce que les arbres s'arrêtent à un moment de pousser, Ernst Zürcher?
Oui, il suffit de les observer exactement. C'est plus facile de s'en convaincre en observant des feuillus que des résineux. Les arbres poussent pendant ce qu'on appelle la période de végétation. Une fois que les aiguilles tombent, mais ça c'est plus tard, mais que les feuilles tombent à l'automne, il y a une cessation de la croissance visible. Les racines poussent un peu plus longtemps, mais à un moment donné, si les sols sont vraiment froids, elles s'arrêtent aussi de pousser, elles se mettent au repos, il y a une forme de sommeil qui a lieu. Ça, concernant les saisons. Entre le jour et la nuit, là c'est plus difficile parce que les arbres poussent encore avec les réserves de glucose, de substances issues de la photosynthèse qui sont disponibles et pendant la nuit il y a encore de la croissance. Et les bambous par exemple poussent aussi de nuit et sont capables de faire 30 cm en 24 heures, c'est énorme. Donc eux ne cessent pas rapidement, facilement de pousser. Mais pour des arbres très anciens, comme certains ifs monumentaux, par exemple, on a parfois juste une toute petite croissance à la pointe des branches, un demi centimètre, un centimètre de petite pousse. Et au bout des racines, tout ça reste encore vivant, on ralentit. Mais si on observe le cambium, cette enveloppe vivante qui est sous l'écorce et qui alimente la fabrication du bois, le cambium est au repos, ne fait plus de cellules, il attend peut-être encore une dizaine d'années avant de refaire quelques petites cellules. Donc il y a des endroits où l'arbre ne pousse plus et dans d'autres endroits où il pousse encore un peu.
Ce qui veut dire, Ernst Zürcher, qu'il y a des arbres qui ont des milliers d'années et qui, au bout de leur branche, ont des petites pousses. On les voit, c'est du petit vert tendre et tout ça?
Oui, oui, c'est du vert bien visible. L'arbre qu'on estime étant peut-être le plus vieux d'Europe, qui a peut-être 5000 ans d'âge aussi, et il pousse dans le centre de l'Écosse, à Fordingall. Vu de l'extérieur, il est dans une santé éblouissante. Il est parfaitement vert et dense, mais il a un tronc extrêmement grand, creux en deux parties, et il se passe presque plus rien au niveau du tronc.
Impressionnant, Ernst Zürcher a écrit chez Actes Sud les arbres entre visibles et invisibles. un peu l'impression qu'il chante Chapeau pointu, mais non, pas du tout. C'était Lighten Up Parcels.
Les petits bateaux sur France Inter.
Nous sommes le 2 décembre. Oui, c'est l'anniversaire de la victoire d'Austerlitz, mais c'est surtout un mois en R.
Bonjour, c'est Jérémy et j'ai 14 ans et je voudrais savoir si oui ou non on a le droit de ramasser des coquillages sur la plage. Merci. Au revoir.
Merci pour cette question, Jérémy. Nous sommes nombreux à nous la poser. Jean Proux, vous êtes directeur du centre de recherche Ifremer de la Tremblade en Charente-Maritime. C'est peut-être pas d'ailleurs la même chose partout.
Alors, d'abord, on peut aller sur les plages parce que ce qu'on appelle le domaine public maritime, ça appartient à tout le monde et à personne. C'est pas comme la propriété privée. Donc, tout le monde peut aller sur une plage pour se promener. Il y a pas de problème. Après, les coquillages sont quand même réglementés. D'abord parce que si on prélève des coquillages sur une plage et qu'on veut les manger à midi, il faut qu'ils soient propres. Or, on sait que les coquillages, ça filtre énormément d'eau. Et sur une plage, il peut y avoir des eaux, par exemple, qui sont pas de très, très, très bonne qualité. Donc, il y a un règlement qui est donné par la préfecture de chaque département qui donne à peu près le classement des zones. Donc, chaque zone, chaque plage va être classée en fonction de sa salubrité. Donc là, vous pourrez pêcher des coquillages ou pas pêcher des coquillages. Ça peut être interdit pour différentes raisons. En général, ce sont les mairies donc qui affichent le long des plages. Il y a un petit panneau disant qu'on n'a pas le droit de ramasser les coquillages sur une plage particulière. Donc, ça permet de garantir la salubrité pour quiconque veut aller sur une plage pour ramasser des coquillages. Il a le droit, mais il faut faire attention.
Ça, c'est pour le pêcheur.
Alors ça, c'est pour le pêcheur. Et il y a d'autres choses aussi pour le pêcheur. C'est-à-dire que tout un chacun peut aussi aller pêcher des coquillages sur la plage, mais on est limité aussi par un autre règlement qui est un règlement sur le nombre de coquillages, sur le poids, sur
des choses comme ça,
sur la taille. On peut pas pêcher des tout petits coquillages ou pêcher des coquillages d'une certaine grosseur. Il faut certains outils. On n'a pas le droit d'arriver avec un tractopelle sur une plage pour pêcher les coquillages. Il faut des outils qui sont réglementés. Et puis, il y a un poids. Donc, en général, il y a 5 kilos. Par exemple, pour les huîtres, je crois que c'est 5 kilos. On peut pas ramasser plus de 5 kilos. Ça, c'est pour éviter les gens qui vont ramasser 30 kilos pour, en disant je vais les distribuer à mes amis. Ben non, on pêche chacun sa dose de coquillages. Et puis après aussi, il y a dans les règlements, mais là c'est plutôt des modes de comportement, il faut faire attention qu'on va pêcher, on détruit pas tout, on soulève pas les cailloux, on pêche que le coquillage qu'il faut et puis
on remet tout
bien en place. Et là, c'est des organismes, par exemple je pense au Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement, si tu vas vers l'île d'Oléron, eh bien il y en a un au nord de l'île d'Oléron qui montre aux gens comment bien pêcher des coquillages pour que tout le monde puisse en pêcher dans l'avenir et que les enfants des enfants pourront encore pêcher des coquillages, qu'il y en aurait assez.
Jean Proux, c'est aussi un nom en R. Merci, un R à nouveau. Michel Pastoureau a écrit un livre sur le vert, un livre sur le rouge, un livre sur le bleu, un livre sur le noir. Ils sont tous aux éditions du Seuil. Combien connaissez-vous de drapeaux, celui de votre pays? Peut-être plusieurs si vous avez la chance d'avoir plusieurs pays. Mais sinon, vous en connaissez beaucoup, vraiment?
Bonjour, je m'appelle Victor. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de roses dans tous les drapeaux. Merci de me répondre.
Pourquoi il n'y a pas de roses dans tous les drapeaux, demande Victor. Michel Pastoureau, vous êtes historien des animaux avec ce loup aux éditions du Seuil et également historien des couleurs. Pas de roses dans les drapeaux, demande Victor.
Oui, tu as raison, Victor. Il n'y a pas de rose dans les drapeaux, comme il n'y a pas non plus de gris, ni de brun, ni de violet, et à peine d'orangé. Ça vient de ce que les drapeaux sont nés il y a longtemps, qu'ils étaient faits pour être vus de loin, et que l'on a choisi les 6 couleurs principales dans les sociétés européennes. Le blanc, le rouge, le noir, le vert, le jaune, le bleu. Et quand on passe au rose, au gris, au brun, au violet, à l'orangé, ce ne sont pas des couleurs principales, ce sont des demi-couleurs ou des couleurs du deuxième rang. Donc on les a délaissées, au moins dans un premier temps. Et puis il faut se rappeler que les drapeaux sont les héritiers des armoiries du Moyen-Âge. Et dans les armoiries du Moyen-Âge, il n'y a en effet que 6 couleurs, le blanc, le jaune, le rouge, le vert, le bleu et le noir. C'est ce qu'on retrouve dans les drapeaux. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les panneaux des codes de la route, par exemple. Tu peux remarquer que ce sont les mêmes couleurs qui sont choisies. Il n'y a pas de rose dans les panneaux du code de la route.
Ni de violet, bien sûr.
Voilà, il faut les 6 couleurs de base. Les couleurs du deuxième rang n'ont pas été choisies. Et puis après, on n'a que des nuances et des nuances de nuances. Le rouge brique, le vert olive, le bleu des mers du sud, ce ne sont pas des couleurs, ce ne sont que des nuances. Et comme les drapeaux sont faits pour être vus de loin, il faut des couleurs presque abstraites, en tout cas absolues.
Comme il y a de plus en plus de drapeaux, on en crée assez souvent, vous pensez, Michel Pastoron, qu'il va y avoir de ces couleurs-là, des roses et des violets dans les drapeaux à venir ou pas ?
Je pense que ça va venir, on le voit sur les terrains de sport où c'était pareil pour les maillots des sportifs. Au début, on n'avait que les 6 couleurs de base, blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu. Puis peu à peu sont apparues d'autres teintes, assez récemment, il faut bien le dire, le violet, l'orangé, le gris, le rose, pas le brun. Le brun est absent des terrains de sport, mais ça va venir. Et dans les drapeaux, ça va sans doute venir aussi. C'est pareil également dans les emblèmes des partis politiques et des syndicats. Il a fallu du temps avant qu'il y ait autre chose que les 6 couleurs de base. Mais ça fait pas un grand choix, 6 couleurs. Donc, non. Il faut de nouvelles teintes.
Vous rappelez-vous la page des drapeaux dans les dictionnaires papier? Quelle merveille!
Et je marchais dans la rue un soir. Seul à seul, je comptais mes pas pour me rassurer. Tout en fumant dans le noir, un mégot à jourer. Les urchasses, les antipresses et la caravane passe. Je pensais au sommeil pour demeurer éveillé. Mais au cafou, soudain, je les ai entreaperçus. Née au vent, elle déboulait à prix d'abattue. Elle tanguait sous les phares des autos. Mais où sont passés les gazelles? 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 Dans le brun et lors de leurs yeux tout se bouleversait. Je riais aux éclats ensemble dans mon affolement. Des trottoirs, des tapis rouges, des ballons à nos pieds. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles?
Mais où sont passées les gazelles, je vous le demande. C'était Lizzie Mercier-Desclous. Camille Chaise, elle est passée au petit bateau.
Bonjour, Guillaume, 30 ans. J'aurais voulu savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de différence entre le nombre de manifestants comptés par la police et comptés par les mêmes manifestants. Voilà, merci de me répondre. Au revoir.
Merci Guillaume. Et oui, nous avons des auditeurs, des petits bateaux, des questionneurs, des petits bateaux, comme l'émission est là depuis longtemps, que nous avons eu enfants, puis qui maintenant commencent à être adultes. C'est, en tout cas, c'est une question vraiment que tout le monde se pose. Pourquoi il y a autant de différences entre le nombre de manifestants comptés par la police et comptés par les mêmes manifestants? Camille Chaise, vous êtes commissaire de police. Le savez-vous?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que les objectifs des manifestants et de la police sont très différents.
D'abord, on pourrait se demander, Camille Chaise, qu'est-ce que c'est finalement une manifestation ?
Alors, une manifestation, c'est un pouvoir, un moyen de pression sur un gouvernement pour faire changer une mesure ou pour faire prendre conscience d'une certaine situation. Donc, c'est ce moyen de pression qui fait que l'objectif du manifestant et l'objectif de la police dans le comptage des manifestants n'est pas le même.
Ah, ils sont pas là pour les mêmes raisons.
Ils sont pas là pour les mêmes raisons et faut bien le comprendre. L'intérêt des organisateurs dans les manifestations, c'est de pouvoir dire que c'est un vrai succès, que ça a rassemblé beaucoup de monde. Et c'est pour ça ça, des fois, que le chiffre annoncé est très important. Alors concrètement, comment on compte les manifestants quand on est policier ? D'abord, les policiers qui comptent les manifestants, ce sont les policiers du renseignement territorial. Donc, ils vont être présents pendant la manifestation. Ils vont parfois se mettre avec les manifestants dans les cortèges, mais aussi des fois sur ce qu'on appelle des points hauts, c'est-à-dire en haut des immeubles, pour pouvoir bien observer, parce que souvent, les boulevards ou les rues sont bien dégagés. À partir de là, c'est une méthode très mathématique, finalement. Ils vont compter le nombre de manifestants par ligne, en début de la manifestation, et ils vont compter combien il y a de lignes jusqu'à la fin de la manifestation. Et on va faire une multiplication, la ligne par le nombre de rangées, et ça va donner le bon nombre de manifestants selon la police. Alors en même temps, c'est filmé. Les policiers de renseignement vont filmer cette manifestation, ce qui fait que le soir même de la manifestation, ils vont pouvoir recompter pour vérifier que leur calcul pendant la manifestation était bon. Et de temps en temps, le lendemain ou le surlendemain, ils reçoivent même les organisateurs pour en parler avec eux quand les chiffres sont vraiment trop différents. Et à la main, quand ils sont dans les manifestations, ils ont un petit outil de comptage, un peu comme les hôtesses de l'air dans les avions, pour un par un compter le nombre de manifestants sur chaque ligne avant de faire la multiplication.
Cela dit, Camille Chaise, quand même, compter des humains dans les rues ou les boulevards d'une grande ville, c'est évidemment extrêmement compliqué parce qu'ils bougent, parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils sont serrés. Donc il y a forcément une petite marge, même si on fait le plus rigoureusement possible, il y a forcément une marge d'erreur.
Alors forcément, effectivement, il y a une marge d'erreur, mais la méthode est vraiment très mathématique. Et dans les villes comme Paris, qui connaissent vraiment des grosses manifestations et souvent sur les mêmes boulevards, on a par exemple compté et métré la taille du boulevard. Ah, ouais. Et on sait que d'une manifestation à l'autre, il y a à peu près 50 manifestants par ligne, et on sait que sur un boulevard, sur ce boulevard-là, à l'instant T, d'habitude, c'est à peu près 50 manifestants. Donc, on essaie de se perfectionner pour être toujours le plus précis dans le comptage, sachant qu'il doit être très rapide, parce que dès le soir même, on veut savoir combien il y avait de manifestants.
Oui, vous savez maintenant combien contient le boulevard Voltaire sur 20 mètres, quoi, à peu
Exactement.
Près. Oui, je comprends. Et alors, quand il y a eu une manifestation de policiers, je m'en souviens pas, ça c'est Marjorie qui se demande, est-ce que les chiffres étaient les mêmes cette fois-ci ?
Alors, les chiffres n'étaient pas les mêmes,
ah,
ils
ça,
étaient
c'est
même
drôle.
Assez différent. Et ça revient à ce que je disais au tout début, c'est que les objectifs ne sont pas les mêmes. Pour les manifestants, on veut montrer que ça a vraiment marché et qu'il y avait beaucoup de monde. Et pour la police, on essaie d'être le plus précis possible.
Depuis que Camille Chaise est venue au Petit Bateau, une vingtaine de grands médias ont décidé de s'associer pour adopter leur propre méthode de décompte des participants. Ce collectif comporte l'AFP, France Inter, Europe 1, RTL, France Info, France Culture, France 2 et également des journaux de la presse écrite. Les petits bateaux, c'est terminé pour ce soir, mais nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Eliane Girard, Noël Bréham, Loïc Frapsos, Jean-Baptiste Audibert, Marie-Claire Matout. Vous pouvez venir sur le site des petits bateaux et réécouter cette émission sur franceinter.fr.